continue l'étude sur les faux prophètes. C'est important de le savoir. Pourquoi que c'est important? C'est parce que le plan de Dieu pour comment faire pour être sauvé, il est écrit dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on veut suivre. Mais il y a un paquet d'autres religions autour qui nous enseignent d'autres chemins à suivre. Il est-tu important de savoir quel est le vrai chemin? Quels sont les repères, quels sont les points qui sont révélés dans la parole de Dieu pour que je puisse discerner? On a vu, il y a deux semaines, que Dieu donne par son Saint-Esprit le discernement des esprits. Par là, on peut être averti que le Seigneur nous parle puis nous montre à telle personne, ce qui est en, c'est pas le Saint-Esprit qui agit dans cette personne-là. Tu peux avoir cette révélation-là donnée par le Saint-Esprit. Mais c'est pas tout le monde qui a ce don-là. Puis c'est pas la seule façon de reconnaître les faux prophètes. On a vu la semaine passée un point qui était écrit dans l'Épître de Jean qui dit, pour reconnaître les faux prophètes, regarde ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jésus. Qui est Jésus? Puis on a vu que Jésus, le Jésus de la Bible, c'est le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, celui qui existait de toute éternité puis qui est venu en forme humaine. Il a vécu une vie sans péché, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité le troisième jour, puis il est ressuscité dans son corps, puis c'était le Dieu Tout-Puissant qui reprenait toute sa place dans où ce qui était auparavant. Puis là, mettre notre foi en ce Jésus-là. Parce que si tu te trompes de Jésus, puis de ta religion, ce que tu vas, enseigne un autre Jésus, si on l'a vu, il y a d'autres religions qui enseignent des faux Jésus. Ils vont dire c'est un ange. Il y en a d'autres qui vont dire c'est un prophète. Un autre, c'était un bon gars. Mais faux, pour reconnaître le vrai du faux, croyez au Jésus de la Bible. Comme ça a été mentionné, puis vous ne vous tromperez pas. Aujourd'hui, on va voir un deuxième point de discernement. Pour reconnaître les séducteurs, puis on va voir que c'est encore Jean, l'apôtre Jean, dans la même épître, dans le même chapitre que je vous ai dit qu'il fallait reconnaître, regardez quel Jésus, qu'est-ce qu'il prêche comme Jésus. C'était dans un verset, dans un autre verset de ce passage-là, nous parle d'un deuxième point pour discerner si c'est des faux prophètes ou des vrais prophètes de Dieu. Comment développer notre discernement par la parole de Dieu pour reconnaître si une personne est vraie ou c'est un faux prophète? C'est important, parce que si on n'arrive pas à le reconnaître, on peut se faire bourrer de menterie, on peut se détourner de la vérité. Jésus nous met en garde afin qu'on ne soit pas séduit, parce qu'il a parlé d'une séduction. Dans Marc 13, le verset 5, Jésus se met alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus parlait à ses disciples, il parlait à du monde qui avait déjà la foi en lui. C'était déjà du monde qui croyait que Jésus était le Messie. Puis Jésus le dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Puis quand on parle du mot « séduire », pour comprendre ce sens-là, ça veut dire de se faire égarer, de se faire amener à s'égarer. Ça veut dire aussi conduire hors du droit chemin. Ça veut dire errer. Ça veut dire se conduire hors de la vérité, ou mener dans l'erreur, ou se faire tromper, ou être conduit dans l'erreur. Être amené hors du chemin de la vertu, c'est tous ces des sens que ce verset-là veut dire, ce mot-là veut dire péché, il veut nous amener à pécher, donc il peut nous séduire pour qu'on pêche. Se séparer ou s'éloigner de la vérité, devenir hérétique, ou être emmené dans l'erreur puis dans le péché. Quand Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise », ça veut dire qu'il est en train de dire à ses disciples, « Vous connaissez la vérité présentement, mais prenez garde que quelqu'un vient à vous puis commence à vous dire des choses pour vous éloigner, pour vous amener à errer, pour sortir du chemin, pour vous tenter, pour vous faire pécher, pour vous faire sortir de la vérité. » Le point de discernement, afin qu'on reconnaisse s'ils sont de la vérité ou pas, afin de pas se faire séduire, justement, le verset qu'il faut qu'on retienne dans notre esprit, c'est « Est-ce qu'ils enseignent et pratiquent la parole? » Puis dans le passage qu'on va voir pour reconnaître les vrais du faux, c'est l'apôtre Jean. J'en ai parlé à plusieurs reprises. L'apôtre Jean, c'était l'apôtre de l'amour. S'il y a bien quelqu'un qui aimait, c'était lui. Il était surnommé l'apôtre de l'amour. Puis ce gars-là qui aimait Jésus, il aimait Dieu, mais il aimait le monde. Mais il avait du discernement pour être capable de distinguer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. C'est lui qui nous a enseigné dans cette épître-là comment discerner. Il dit, regardez s'il parle, quand ce qu'il parle de Jésus, parle-t-il du Jésus de la Bible? Ben après ça, le deuxième point, il va nous dire, écoutez ce qu'ils enseignent, le point de doctrine, puis ce qu'ils mettent en pratique. Vous allez pouvoir être capable de discerner si c'est un vrai ou c'est un faux. Dans 1 Jean 4, 6. Qui est le verset de base, Jean, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, il est en train d'expliquer, écoutez bien ce verset-là, « Nous sommes de Dieu. » Quand il dit ça, lui, il est un enfant de Dieu parce que c'est un apôtre de Jésus. Puis, « Nous », quand il parlait de « nous », il parlait des chrétiens, de ceux qui connaissent la vérité. Il dit « Nous, nous sommes de Dieu. » Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Voyez-vous qu'est-ce qui se produit dans ce passage-là? Il nous parle qu'il peut avoir deux esprits. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, l'esprit qui descend du ciel, qui est donné à tous ceux qui se convertissent. Il y a aussi l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qu'on avait avant d'être chrétien. C'est un esprit qu'on est mené, l'ensemble du monde est mené par cet esprit-là, puis il nous amène à vivre de façon contraire à la parole de Dieu. L'esprit de l'erreur nous amène à être embrouillés puis pas comprendre la parole de Dieu. Puis là, l'apôtre Jean nous dit dans ce passage-là, « Nous sommes de Dieu, on prêche la parole de Dieu. » Puis là, il dit, « Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » Celui qui est de Dieu nous écoute. Puis il dit, c'est de la façon-là qu'on va discerner si c'est l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur. Face à l'enseignement de la parole, quand un enfant de Dieu parle de la parole de Dieu, ça fait un effet dans les cœurs. Soit que les gens sont intéressés à écouter, ou soit que les gens rejettent, puis ils s'obstinent, puis ils refusent, puis ils se poussent, puis ils sauvent, ils veulent pas l'entendre. Ça démontre quel esprit qui est à l'intérieur de la personne, quel esprit qui est en train d'agir. Puis, ça peut arriver que c'est comme il peut y avoir des nouveaux ce matin, là, c'est la première fois qu'ils entendent la parole, ils vont vivre des combats. Parce que dans l'intérieur, le Saint-Esprit les amène à dire, oui, la parole de Dieu, oui, Jésus. Puis d'un autre côté, l'esprit de l'erreur va dire non. C'est là qu'on voit comment est-ce que la personne est ouverte à recevoir la vérité ou si la personne refuse, puis elle combat, puis elle accepte l'idée de dire non, moi j'en veux pas, puis je me sauve. C'est par là qu'on peut reconnaître les deux esprits. Ça peut être dans l'Église aussi même, des gens de longue date qui sont assis, puis ils sont là de corps, ils acceptent la parole, ou d'autres sont assis là, sont là de corps, puis dans leur tête, chaque fois qu'ils entendent des versets, ils disent non. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Puis ils refusent, puis ils résistent, puis ils combattent. C'est signe qu'il y a quelque chose d'autre qui travaille pour les empêcher d'avancer dans le Seigneur. Il y a des esprits qui travaillent. Je sais pas si c'est la première fois que vous entendez cela. Il y a des esprits qui travaillent pour nous empêcher d'aller à Jésus, puis d'être pardonnés. Il y a un combat. Même après que tu l'aies accepté, tu vas avoir d'autres tentations, d'autres épreuves. Puis Jésus a dit à ses disciples, c'était tout du monde qui croyait, prenez garde d'être séduit. Séduit par qui? Par l'esprit de l'erreur qui va parler par quelqu'un pour essayer de te détourner de la parole de Dieu. Puis c'est là le combat, frères et sœurs. Ces esprits-là qui sont dans le monde invisible travaillent contre Dieu, puis travaillent dans les personnes. Puis, face à la parole de Dieu, qui est prêché, comment est-ce qu'on réagit? Sommes-nous attirés ou on veut fuir ces choses? Juste par la réaction qu'on ressent, on peut déjà savoir quel esprit qui nous anime. Tous les enseignements ou les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu sont du mensonge et de la séduction. C'est par là qu'on peut comprendre que pourquoi il y a tant de religions puis qu'il y a juste une seule Bible. Il y a juste une seule Bible, mais il y a plein de religions. Ça veut dire qu'il y a du monde qui se sont fait des doctrines, des religions, peu importe la religion, sont fait des enseignements, sont montés une religion par toutes sortes d'enseignements qui sont pas basés sur des versets de la parole de Dieu. Puis ça fait toute la différence. La Bible, elle nous dit que la parole de Dieu n'est que vérité. C'est la parole de vérité. Puis toute personne qui se tient dans la vérité ne doit pas proclamer le mensonge. Les personnes qui se tiennent dans la vérité doivent proclamer la vérité. Fait que nous, en ayant la parole de Dieu, qui est la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit sortir de notre bouche comme message, comme prédication, comme « Oh, Dieu dit ça, on dit ça aux autres, puis là on déclare quelque chose. » Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si c'est écrit ce qu'on est en train de dire, on proclame la vérité. Mais on peut être, même si t'es chrétien, on peut être des canaux pour laisser passer du mensonge. Dieu ne veut pas cela. Il veut qu'on réalise que tout ce qui sort de notre bouche doit être des enseignements qui proviennent de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 2:21, l'apôtre Jean, lui, nous dit justement à propos de la vérité, « Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. » Fait que quand on connaît la vérité puis qu'on apprend à bâtir notre vie sur la vérité, si quelqu'un vient à vous puis vous annonce autre chose qui n'est pas écrit là, ou vous annonce des choses contraires de ce qui est écrit là, c'est du mensonge, puis ça provient pas de la vérité, ça vient de l'esprit de l'erreur. C'est de même qu'on commence à savoir, y es-tu de Dieu ce gars-là? Mais écoute ce qu'il prêche, puis tu vas le savoir. Prêches-tu des choses basées sur la Bible, ou c'est des choses tordues, puis d'autres enseignements rajoutés, puis parce que les religions, c'est ça, c'est un mix. Ils peuvent prendre quelques versets, mais ils ont beaucoup d'idées que c'est des ajouts ou ils ont retranché de ce que des choses que la Bible enseigne. Jésus a dit, écoutez ce qu'ils prêchent et regardez ce qu'ils mettent en pratique. Puis là, vous allez reconnaître un arbre à son fruit. Regardez ce qu'ils prêchent, puis regardez ce qu'ils mettent en pratique, puis vous allez être capable de reconnaître les faux prophètes. Dans Matthieu 7:20-21, nous dit, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Dans le même verset, ça dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer. C'est celui-là seul qui a fait la volonté du Père. Voyez-vous que la foi doit obligatoirement être mise en pratique. Si je dis que j'ai la foi puis je bouge pas, je démontre pas ma foi. Ma foi doit être mise en pratique. Comment je vais mettre en pratique? C'est en lisant la parole, en appliquant ce que Jésus, en recherchant à appliquer ce que Jésus a enseigné. C'est là que je démontre ma foi. Contrairement aux religions, les gens proclament d'autres versets, d'autres enseignements, d'autres coutumes. Il y en a qui, comme par exemple, ils vont se marier avec plusieurs femmes. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Mais ça a déjà arrivé que des gens sont déjà dans l'Ancien Testament qui avaient plusieurs femmes. Mais c'est pas le plan de Dieu, ni encore moins pour aujourd'hui. Ça, c'est un exemple, mais des enseignements ou d'enseigner que les pasteurs n'ont pas le droit de se marier. C'est pas écrit dans la Bible, ça, là. C'est un enseignement rajouté, puis ça a fait plus de troubles que d'aider. Mais ces gens-là qui ont vécu ça, ils suivaient une religion, ils suivaient pas les enseignements de la parole. Là, j'ai donné deux petits exemples vite, mais il y en a plein d'exemples de pratiques religieuses qui sont pas basées sur des versets de la parole de Dieu, ce qui fait que les gens, quand ils suivent ça, ils sont menés par un autre esprit que l'esprit de vérité. C'est l'esprit de l'erreur. Les gens inspirés par l'esprit de ce monde ne supportent pas la sainte doctrine, puis se donnent des religions adaptées pour eux-mêmes. Les gens nés par l'esprit de l'erreur, ils aiment pas lire la Bible, puis ils aiment pas rester dans ce qui est écrit. Ils aiment ce qui est d'autres choses. C'est ce que ça nous dit qui va se passer dans la fin des temps, que ça sera coupé. Comme dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3 et 4, il dit, il va venir un temps où ce que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, puis ils se détourneront l'oreille de la vérité, puis ils se tourneront vers des fables. Des fables, c'est des histoires, des inventions, des comptines, des tu peux faire comme un qui faisait des fables comme la fontaine. Il en a fait plein de fables. Des fables, c'est pas des faits vécus, c'est des inventions. Mais il y en a qu'au lieu de mettre la foi dans la vérité, ils supporteront pas la sainte doctrine, mais ils veulent entendre des choses qui fait le plaisir, qui sont agréables, fait que là, ils vont se tourner vers des inventions humaines. Puis quand on se tourne, mais on est encore en train de démontrer qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. D'autres points qu'on peut discerner pour comprendre les faux prophètes, ils cherchent à détourner nos regards du Christ, de sa mort et de sa résurrection. C'est le point central de la Bible, de croire que Jésus est venu en forme humaine, puis a pris la forme d'un simple homme. Il est venu du ciel, puis a pris la forme d'un simple homme qui est mort sur la croix, il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, puis qui est pas juste qui est mort, qui est ressuscité, qui est retourné à la droite de Dieu pour aller mener son sang sur l'autel dans le ciel pour nous donner à nous qui reconnaissons ce qu'il a fait, d'être pardonné de nos péchés, puis de recevoir le Saint-Esprit, avoir comme cadeau la vie éternelle. Tout ce qui découle vient du sacrifice de Jésus. Mais il y a des religions que leur but, c'est de détourner les gens de l'œuvre de Jésus. Puis il y en a une tonne. Dans leur enseignement, ils vont dire, oui, Jésus existe, mais leur enseignement n'amène pas à mettre leur foi dans le sacrifice de Jésus pour recevoir le pardon. Puis ça fait toute une différence. Puis l'Église de Corinthiens, il était pris avec ce problème-là. Il y avait des gens dans cette Église-là qui croyaient plus en la résurrection. Ça paraît insignifiant, dire, oh, ben, on croit plus que le monde va ressusciter. Mais Paul leur a dit que si vous vous détournez de l'Évangile, ça vous servira plus de rien. Tout le temps que vous avez cru, mais si vous vous détournez de croire aux principes qui sont écrits dans la parole de Dieu, vous allez perdre votre salut. Si tu commences à défaire ce que Dieu a enseigné, tu commences déjà à être mêlé par l'esprit de l'erreur. Ça t'amène à confesser autre chose que qu'est-ce que la Bible elle enseigne. Puis ça nous, tout le temps que tu as cru, ça va servir à rien. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens au chapitre 15, au verset de 1 à 5. Il est obligé de leur rappeler aux gens de Corinthe, leur rappeler que Jésus est venu. Là, il le dit au début, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Là, il dit, je vous l'ai enseigné avant tout, comme base doctrinale de la foi chrétienne. Ça nous dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour, puis que là, il est apparu à plusieurs personnes. Ça, c'est la base de la foi chrétienne. Si une personne veut être sauvée, tu n'as pas le choix de croire à cela, parce que c'est pas tes bonnes actions qui vont permettre que tu sois sauvé. Personne ne va pouvoir rentrer au ciel sans passer par Jésus pour recevoir son pardon. Son pardon, il est offert par une seule action qu'il a faite, sa mort sur la croix, son sang qui était versé. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous permet d'obtenir le pardon. Si on commence à croire, prenez garde d'être séduit, que Jésus dit. Puis là, la séduction, c'est qu'une religion vienne te dire, « Ben voyons donc, t'as pas besoin de ça, de croire qu'il y a une résurrection. Voyons donc si le monde va aller au ciel. Voyons donc si Jésus est venu v'là 2000 ans. Voyons donc que Jésus sera mort puis qu'il est ressuscité. » Mais tous ces voyons donc-là viennent pas du Saint-Esprit. Ça vient de l'esprit de l'erreur qui essaye de séduire les gens pour les détourner puis les empêcher de mettre leur foi dans le Seigneur pour être sauvés. Y a-t-il du monde qui croit à cela? Il n'a que le sacrifice de Jésus qui nous permet d'entrer. Jésus le dit, je le répète souvent, « Nul ne vient au Père que par moi. » Tu n'as pas le choix. Tu veux aller au ciel, tu veux aller dans le paradis, tu veux aller dans la vie éternelle. Passe par Jésus. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Il y a un autre piège pour les faux prophètes, que les faux prophètes tendent. C'est d'amener les autres vers un autre évangile. Quand on parle d'un autre évangile, c'est pas juste « Est-ce que Jésus a payé le prix à la croix? » Un autre évangile, c'est un autre plan du salut. Une autre manière d'être sauvé que par la foi en Jésus. Dans Éphésiens 2, 8, 9, ça dit « C'est par la grâce » que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quoi une grâce? C'est un cadeau. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est un cadeau que Dieu vous fait, puis vous saisissez ce cadeau par la foi. Ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas par tes œuvres, pas parce que tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, afin que personne se glorifie. Personne va arriver au ciel puis dire « J'ai mérité mon ciel, puis je me pète les bretelles, c'est grâce à toutes mes bonnes actions que j'ai faites. » Personne ne va pouvoir rentrer au ciel parce qu'il se base sur ses propres œuvres. Mais ça, quand une religion prêche que les gens sont sauvés par des bonnes œuvres, c'est un autre évangile. Parce que c'est pas l'évangile de la Bible. L'évangile de la Bible nous parle qu'on est sauvés par le sang de Jésus. Tandis que les religions, la majorité des religions vont dire « t'es sauvé par tes œuvres ». Pratique telle affaire, tu vas être sauvé. Fais allumer des lampions, chanter des messes, fais des sacrifices d'animaux, mets-toi à genoux, puis montre l'oratoire Saint-Joseph à genoux jusqu'en haut, puis redescends. Tu peux leur faire une couple de fois. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires que le monde essaye de dire, d'autres choses pour s'approcher de Dieu. Mais c'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est ça qui est important de comprendre ce matin. Ce qui est écrit ici, l'Esprit de Dieu va vous amener à croire en la parole de Dieu. Puis toutes les autres choses qui sont pas écrites, rejetez cela. Ça fait partie de l'esprit de l'erreur. Dans l'église de Galates, il y a une lettre qui est envoyée là. Il y avait un problème dans cette église-là au niveau de la compréhension. Comment faire pour être sauvé? Puis les Galatiens, ils étaient rendus qu'ils pensaient que pour obéir à la foi en Jésus, qu'il fallait se faire circoncire comme dans la loi de Moïse, comme les Juifs faisaient. Là, ils voulaient se faire circoncire, puis ils voulaient se remettre à pratiquer la loi comme dans l'Ancien Testament. Puis l'apôtre Paul s'est empressé de leur répondre puis de leur dire, ce que vous faites là, vous êtes en train de prêcher un autre évangile, un autre plan du salut. Tu n'as pas besoin de te faire circoncire puis de retourner à pratiquer tous les préceptes de la loi de Moïse pour essayer de gagner ton ciel par tes œuvres comme dans l'Ancien Testament. Puis l'apôtre Paul, il est en train de dire aux Galates, dans Galates 1, versets 6 à 8. Et je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile du Christ. Là, il rajoute, mais quand même, nous-mêmes, ou quand même un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Les Galates étaient en train de passer un autre évangile. Ils étaient rendus qu'ils voulaient croire. Là, on va aller se faire circoncire, puis on va aller pratiquer la loi de Moïse. Puis là, Paul les a dit dans un autre verset, il dit, vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ, vous qui cherchez à être justifiés en pratiquant la loi de Moïse. Celui qui se fait circoncire va être obligé de pratiquer la loi tout entière. Puis ça, on ne rentre pas dans tout le débat pour comprendre les différences, mais il y a une chose qui est claire. Vous voulez être sauvé, gardez le chemin de la grâce, le pardon offert par Jésus-Christ. Vous savez, c'est pas par vos œuvres, c'est par la foi qu'on le saisit. Les œuvres viendront après, pas pour gagner votre ciel, pour démontrer votre foi. En analysant les enseignements des faux prophètes, de ceux qui prêchent des fausses doctrines, il modifie la parole de Dieu en ajoutant d'autres nouvelles idées ou en retranchant. Ça veut dire que quand tu entends quelqu'un commencer à te prêcher des choses, mais il n'y a aucun verset qui est écrit qui parle de ces choses-là, ils sont en train de rajouter. Ou quand tu vas lire un passage... Puis, as-tu vu, la Bible a dit, c'est écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament, de faire telle chose. Puis là, ils vont dire, oh non, ça c'était dans ce temps-là, t'es pas obligé de faire ça. Puis ça, c'était dans un autre contexte. Puis ça, t'as pas... ils trouvent des excuses pour pas le mettre en pratique. C'est du monde qui retranche. C'est écrit de le faire, mais ils vont dire, c'est pas grave, t'as pas besoin de le faire. Mais quand que les gens ils ont cette approche-là, c'est qu'il y a un autre esprit qui travaille en eux, puis c'est l'esprit de l'erreur. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, veut t'amener à ce que tu rentres dans toute la vérité. C'est où la vérité? Ta parole est la vérité. Dans 2 Jean 1,9, quiconque va plus loin, ça veut dire quiconque qui en rajoute, puis qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, qu'on voit dans le Nouveau Testament, n'a point Dieu. Dieu, il n'est plus là. Peu importe qui ce que c'est, ce gars-là, s'il annonce, puis il prêche des choses qui sont pas écrites là, il en rajoute, Dieu est même pas avec eux. C'est l'esprit de l'erreur qui est là. L'enseignement des séducteurs encourage le péché. Vous allez le voir, il y a un verset qui en parle. L'enseignement des séducteurs encourage le péché. Ils vont dire, c'est pas grave, nous sommes sous la grâce. Puis les gens ne se repentent pas quand ils en font. On voit ça dans l'Apocalypse, le chapitre 2, les versets 20 et 21. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, ton désir, ton cœur, c'est de vouloir obéir au Seigneur, t'aimes le Seigneur, tu veux plaire au Seigneur, tu veux y faire plaisir, tu l'aimes. Jésus dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Tu veux mettre en pratique. T'es pas parfait, mais au moins tu veux. Puis si tu tombes, mais tu demandes pardon. Si quelqu'un vient à toi, puis te montre un verset, puis tu t'en étais pas rendu compte, ou tu l'avais oublié, puis tu t'aperçois que t'as fait un péché, première chose que tu fais, tu l'admets et tu demandes pardon à Dieu. C'est ça qui est la vraie manière de réagir. Quelqu'un qui a l'esprit de l'erreur, il veut fuir la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de l'erreur veut fuir la parole de Dieu. Il veut pas la mettre en pratique. Il va avoir de la résistance. Il résiste tout le temps. Il va entendre des avertissements, puis il va se dire encore non, puis non, puis moi je veux pas. Puis il résiste, il veut pas. C'est l'esprit de l'erreur qui est en train d'agir. Regardez bien dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20 et 21. Dieu est en train de parler à un pasteur dans une église, puis il est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Quand le premier verset, j'ai lu tantôt, prenez garde d'être séduit. Là, il y a quelqu'un dans l'église qui est en train de prophétiser, puis elle séduit le peuple de Dieu, elle séduit les enfants de Dieu. Elle enseigne, puis elle séduit, elle trompe par ses enseignements, par ses fausses prophéties, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Wow, s'il y a bien de quoi de grave, ils sont tous graves les péchés, mais les péchés de sexualité en dehors du mariage, peu importe la forme de sexualité, c'est de l'impudicité. Là, dans ses prophéties, tu es en train d'encourager d'être impudique, de vivre de manière impudique, puis de transgresser les principes de Dieu sur la tenue de la sexualité comme c'est supposé d'être vécu. Fait que cette fausse prophète-là, elle enseigne, puis elle séduit, puis elle dit aux gens de se livrer à l'impudicité, puis de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que dans sa prophétie, elle est en train de dire, c'est pas grave quand on tous les remariages, puis ce qu'on entend aujourd'hui de d'union illicite, toutes ces formes, la sexualité sous toutes ces formes, en dehors du mariage, Dieu ne l'approuve pas. Et comme on voit des viandes sacrifiées aux idoles, ça parle communion avec les idoles. Parce que l'apôtre Paul l'a bien expliqué, que quand tu vas dans un temple, qu'il y a des idoles, c'est des choses adorées, des choses priées, des objets de culte, que ce soit des statues, des images, peu importe ce que c'est. Si il y a des idoles, puis qu'il y a un sacrifice qui est offert là, que ce soit un sacrifice de la messe, sacrifice d'un animal à offrir à une statue ou à un autre Dieu, peu importe, même s'il s'adressera au vrai Dieu. La minute que des idoles, c'est du péché, c'est contre un des 10 commandements de Dieu. Il dit pas faire de faux dieux, mais il dit aussi de pas se faire de statues, puis de photos, puis de s'agenouiller. On rend pas de culte à ça. Fait que la fausse prophète, qui est dans l'église, dans cette église-là, elle a dit, faites-en du sexe, c'est pas grave, en dehors du mariage. On n'élaborera pas tout là-dessus, là, mais le point, il faut le comprendre. Et servez les idoles, aller dans les temples d'idoles, pratiquer l'idolâtrie, c'est pas grave. Dieu dit au verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Que je vous disais tantôt, quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu, son cœur, c'est de vouloir obéir à la parole. S'il se fait montrer quelque chose qui n'est pas biblique, son cœur va être, « Ah oui, c'est vrai, pardonne-moi Seigneur d'avoir péché puis d'avoir fait telle affaire, là tu continues à avancer. » Quelqu'un qui est animé de l'Esprit de l'erreur, il entend la réprimande ou l'explication de quelque chose qui n'est pas correct dans sa vie, puis il veut pas se repentir. Il veut pas changer de vie. Il veut rester comme qu'il est. Puis il va s'opposer, puis il va résister. Mais ça, c'est l'esprit de l'erreur qui est en train de mener cette personne-là. Nous sommes avertis de prendre garde, puis de pas se laisser attirer par les mensonges, des fausses doctrines, des faux enseignements. Puis que ça peut nous faire, si on écoute cela, puis on pratique ça, ça peut nous éloigner de la foi. On voit ça dans 2 Pierre 3, 17, qui nous dit, « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Les gens qui sont sauvés, qui sont réellement sauvés et animés de l'Esprit de Dieu, vont avoir une soif d'en apprendre encore plus de ce qui est écrit dans la parole. Ils vont avoir une soif de comprendre, d'apprendre la vérité, puis de grandir dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous amène, il nous pousse, on en veut, on a soif, on veut l'apprendre, on veut grandir, on en veut plus. Ça, quand t'es animé de cet esprit-là, c'est l'esprit de vérité. Puis dans 1 Pierre 2, les versets 2 et 3, nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Puis il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous demandent de rester fidèles à pratiquer la parole de Dieu. Il faut rester fidèle. Il ne faut pas se laisser attirer ailleurs. Si on ne connaissait pas le Seigneur, puis on apprend qu'on peut être pardonné de nos péchés par son sacrifice, puis là, on veut changer de vie, on va aller au Seigneur, on va prier, on va s'engager à le suivre, à le servir, à marcher avec lui. On veut qu'il nous pardonne, il va le faire. On veut qu'il nous donne le Saint-Esprit, il va le faire. Puis on veut qu'on... On veut être sauvé, avoir notre nom inscrit dans le livre de vie pour avoir la vie éternelle. Il va le faire. Mais il s'attend à ce qu'on soit repentant puis qu'on veuille se convertir. Se convertir, ça veut dire, oui, Seigneur, je suis un pécheur, je le regrette, mais je veux changer de vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Puis il va le faire. Il va le faire parce qu'il veut vous sauver. Puis une fois que tu t'es engagé dans ce chemin-là, tu veux marcher selon la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener à obéir. Tu ne seras pas parfait du jour au lendemain, mais il y a déjà des choses, en donnant ta vie au Seigneur, il y a déjà des choses qui vont changer dans ta vie. Puis au fur et à mesure que tu continues à te nourrir de la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu pries puis tu cherches Dieu, le Saint-Esprit fait un œuvre. Tu confesses tes péchés, il va t'en affranchir, te délivrer, te transformer pour que tu arrives à ressembler de plus en plus à Jésus. Ton but, c'est de suivre le Seigneur. Dans 1 Jean 2, 24, ça nous dit, c'est dans l'apôtre Jean qui nous dit ça encore. Il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, non, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous voulez demeurer, vous voulez être sûr d'avoir la vie éternelle, il y a un critère, il y a une clause. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, que ça demeure en vous. Restez dans la parole, demeurez dans la vraie foi qui est révélée dans la parole, la foi dans le Messie, la foi en Jésus, en son œuvre qui a accompli pour qu'on puisse être pardonné. Demeurez dans l'obéissance de sa parole pour démontrer à Dieu que vous l'aimez. Persévérez dans ce chemin-là, ne vous laissez pas séduire, puis la fin, c'est la vie éternelle. Je vais faire un appel s'il y a des gens qui c'est... Que ce soit la première fois, que ça fasse 1000 fois qu'on l'entend, mais si vous n'avez pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, je vais vous donner l'occasion de pouvoir lui demander pardon pour vos péchés, puis lui demander le Saint-Esprit. Puis à partir de ce moment-là que vous allez le faire, la Bible nous le dit, il faut prendre une décision publiquement. Il y a un verset qui dit, si tu le confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut arriver à le croire. Ça, c'est déjà la première étape. Mais après ça, c'est des pas de foi, des pas d'obéissance. Faut que tu le proclames. Il y a un autre verset qui dit la même chose. Si quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Puis celui qui me reniera, je le renierai. Le Seigneur veut pas que le monde soit perdu. Il les appelle tous. Croyez. Le sacrifice de Jésus est pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être pardonné de vos péchés? Voulez-vous que le Saint-Esprit rentre dans votre vie pour changer votre vie? Voulez-vous être né par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, vivre des choses avec Dieu? Vous avez une chose à faire, c'est votre engagement. C'est pas devant une église, c'est pas devant des hommes, c'est devant Dieu que ça se passe. C'est Dieu, on confesse à Dieu qu'on croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis vous réclamez ce cadeau-là, vous le saisissez par la foi. C'est un cadeau que Dieu va vous donner, d'être pardonné, d'être purifié. Je fais un appel, s'il y en a qui veulent le faire, avancez-vous, on va prier avec vous. Prenez position pour Jésus. Puis si c'est la première fois que vous n'entendez parler, gênez-vous pas de poser des questions. Approchez-vous de Dieu. On doit tout faire pour s'en approcher, parce qu'on ne sait même pas si on va être encore là demain. Il peut arriver quelque chose, puis on passe à côté du chemin, puis on se dit, oh ben moi, j'avais l'occasion, mais je me sens pas prête. Mais se sentir prête, c'est même pas ça qui devrait motiver notre motivation. Ça devrait être, je veux être sauvé. Je veux que Jésus rentre dans ma vie. Je veux qu'il change ma vie. Je veux être transformé. Je veux être une autre créature. Je veux vivre ce que Dieu a me donné. Je donne encore une occasion. S'il y en a qui veulent accepter Jésus, levez votre main, puis on va prier avec vous. Pour les autres qui ont entendu ce message-là, puis qui se disent, moi je crois, mettons, vous confessez que vous croyez à tout ce qu'on a vu tantôt, la question que je veux vous poser, est-ce que c'est arrivé que vous avez été séduit et que des paroles de l'esprit de l'erreur sont rentrées dans votre esprit puis qui vous auraient tenté à essayer de vivre des choses que Dieu ne veut pas? Vous devez prendre position pour arrêter ces choses-là. C'est quelque chose, si vous avez été entraîné par l'esprit de l'erreur à pratiquer des choses qui font partie des autres religions, vous avez encore l'occasion de revenir à Christ, tout simplement en demandant pardon de votre égarement puis d'avoir accepté d'aller vers ces choses-là. Faites la prière pour consacrer votre vie uniquement à suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Je vais faire une prière pour vous donner l'occasion de vous rendre dans le chemin de la parole de Dieu. Père, je te remercie pour ta parole que tu nous as enseignée, qui nous enseigne qu'il y a plusieurs chemins autour, mais qu'il y a un seul chemin qui mène vers toi. Je te demande pardon pour m'avoir laissé séduit, puis pour nous laisser entraîner dans les autres religions, parce qu'on est curieux ou parce qu'on voulait essayer d'autres choses, ou on n'avait pas compris que c'était dangereux. Je te demande pardon de notre égarement, puis je te demande de nous ramener dans ta voie, dans le chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Seigneur, on veut suivre que ta parole. On veut rien savoir des autres religions. Conduis-nous par ton esprit à ce qu'on puisse se sanctifier davantage et davantage afin qu'on demeure en toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.